On a mis un peu de temps à installer le matériel qui permet à la fois de projeter, d'enregistrer et de parler. Nous, on est des amateurs de patrimoine et d'histoire, mais on n'est pas très férus de technologie. Et souvent, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'an dernier, on a parfois des pépins. Mais cette fois, c'est parfait. Vous connaissez, j'ai pas besoin de la présenter, Alexia Lerang. Je pense que tout le monde ici la connaît, au moins par ses œuvres écrites, comme cette plaquette qui a déjà 5 ans d'âge. Et puis peut-être d'autres ont eu l'occasion de la voir dans des conférences dans d'autres communes de notre territoire. Elle était à Lavorette le 25 juin, si je ne me trompe pas, pour une présentation de même type, mais centrée sur Lavorette et la restitution de l'inventaire que vous aviez fait, c'est votre boulot, du patrimoine rural, de l'architecture rurale du Causse dans ce coin-là. Voilà, quand on s'est vu cet hiver, on était venu d'ailleurs avec Gino dans le programme de constitution d'ateliers pour connaître et travailler à la restauration des murs en pierre sèche et des petits patrimoines ruraux, comme on dit. On avait prévu, on était venu vous voir et on vous avait demandé cette conférence pour éclairer un peu notre travail et vous avez accepté ça et on a fixé la date. On n'avait pas prévu que ce serait un jour de match. Mais voilà, le match est terminé et donc on peut commencer notre conférence. Voilà, j'ai pas besoin de présenter Alexia Lerang, donc peut-être si vous avez envie, faites-le d'un mot pour qu'il y ait des choses que je ne sais pas et que vous direz, que vous m'apprendrez par la même occasion, et je vous donne la parole. Merci.
Bon, donc bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais vous parler de l'architecture rurale d'Écosse, donc Saint-Antonin, mais pas que. Alors, je vous ai mis une. Bonsoir. Donc voici une carte de localisation des trois communautés de communes qui composent le Pays Midi-Quercy. Donc elle permet de recentrer géographiquement le propos, mais aussi de préciser donc que cette conférence est l'occasion de présenter différentes données issues de l'inventaire du patrimoine qui a démarré en 2004 sur ce territoire. Donc l'architecture rurale est l'une de nos principales thématiques de recherche et en ce qui me concerne, donc j'ai eu l'opportunité de travailler essentiellement sur le secteur d'Écosse qui s'étend sur environ la moitié du territoire du pays. Donc au cours du diaporama qui va suivre, je vais aborder l'évolution de l'habitat en campagne depuis la fin du Moyen Âge et jusqu'à la fin du XIXe siècle. Nous allons voir ce qui le caractérise, quelles sont ses formes, de quelle manière il est implanté. Et cela essentiellement donc à travers des exemples de Saint-Antonin-Nobleval, la Bastide de Peine et la Vorette. Alors même si les dépendances, même si l'habitat, on va dire, est intimement lié à des pratiques agricoles sur ce secteur et donc à la présence de dépendances, j'ai fait le choix de me concentrer sur la maison, car les granges, les étables, les bergeries, les porcheries, etc. représentent à elles seules un sujet, tant elles révèlent des spécificités liées à des micro-territoires, aux cultures et aux élevages associés, et aussi, bien entendu, aux évolutions de la société agricole. Donc, nous avons pu le voir au travers des études communales que l'on mène depuis des années. Autant l'habitat peut avoir, on va dire, une trame commune, autant les dépendances révèlent vraiment des spécificités. Et à Saint-Antonin, on peut dire que même. Entre le plateau de Servanac, le roc d'Anglars et le plateau du Bosc, on n'est pas sur les mêmes choses. Donc ça faisait un peu beaucoup pour une seule et même soirée, on va dire. Alors voici une cartographie qui présente, elle, de manière simplifiée, les entités géologiques qui composent le pays Midi-Quercy, avec essentiellement à l'est, donc les sols argilo-marneux des coteaux, et à l'ouest, donc les sols calcaires des Causses, qui sont représentés en bleu. Alors les sols fournissent une matière première de laquelle découle un savoir-faire. Cela conduit donc à constater des similitudes dans les façons de vivre, d'habiter, et cela donc, comme je vous le disais, même pour des communes qui sont distantes et distinctes et dont les paysages peuvent être également variables. Dans l'Écosse, l'autarcie locale de la construction est encore perceptible. Grâce à la conservation d'éléments bâtis depuis le Moyen Âge. Le constat, lui, n'est pas du tout le même dans les secteurs de coteaux, où des constructions anciennes ont souvent été balayées au cours du XIXe siècle par de nouveaux modèles architecturaux qui vont se développer d'ailleurs à l'échelle du territoire français. Alors voici un petit panorama de différents types de calcaire. Donc celui-ci diffère en fonction de son lieu d'extraction. On se rend compte que sa taille peut être plus ou moins aisée. Nous avons des moellons équarris, de la pierre de taille, mais aussi du moellon qu'on appelle tout venant, comme à Norios à la Bastide de Peine, à Gendre à la Vorette, où le calcaire forme finalement ce que l'on appelle des esquilles anguleuses. La mise en œuvre de ces moellons, généralement, est liée bien sûr à différents facteurs. Il y a l'importance de l'édifice et de son propriétaire, le savoir-faire du maçon, du tailleur de pierre, mais aussi l'époque de construction. Alors, nous pouvons avoir, comme à Saint-Martin-de-Caussagny, au centre, commune de Saint-Georges, des gros blocs cubiques qui sont caractéristiques, en fait, d'une maçonnerie médiévale, ou au contraire, la photo en dessous, donc, dans le village de la Vorette, ces moellons qui sont taillés en fines plaquettes et associés à de larges blocs équarris posés sur champ qui constituent la chaîne d'angle et qui sont révélateurs, pour le coup, d'une construction de la fin du XIXe siècle. Nous avons également des assemblages différents, pierres sèches, joints à la chaux, mais aussi, et c'est assez fréquent finalement, des joints à la terre. Donc tout ça fait qu'il faut prendre en compte ces différents facteurs pour parfois réussir à dater un édifice qui n'a pas toujours une date portée bien affichée. Alors, les détails de maçonnerie vus précédemment rendent bien compte de la diversité du matériau calcaire en fonction de la localisation du bâtiment. Et ce constat semble aussi nous confirmer que, au moins jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, le matériau était extrait à proximité du chantier de construction, puisqu'un des premiers écueils à résoudre était quand même le transport de ce calcaire. Alors, la présence de véritables carrières de calcaire est loin d'être systématique. Alors, la tradition orale, bien sûr, la mentionne parfois leur existence, mais le plus souvent, nous nous sommes rendus compte, notamment dans des petites communes, qu'elles sont tombées dans l'oubli par manque d'entretien, que la nature a repris ses droits, donc elles sont recouvertes par un couvert végétal, et qu'il nous est de fait impossible de les retrouver précisément aujourd'hui. Nous avons aussi des lieux qui sont identifiés, mais sans localisation précise, comme par exemple la côte de Casal, qui rejoint le village au plateau. Et c'est aussi le cas dans la commune de La Vorette, où le long de la route, il y a tout un passage où le calcaire lacustre donc affleure directement et permet une extraction sur place. Mais nous avons d'autres témoins de l'extraction qui sont finalement au même titre que la mare dans la ferme, que l'on retrouve de manière plus aisée dans les coteaux du Bas-Quercy, qui ont servi à extraire la terre pour la construction. Nous avons quelques rares exemples qui sont encore conservés, donc comme à Rigoudou, à la Bastide de Peine, de ces petites réserves d'eau qui sont partiellement maçonnées et dont le sol est constitué d'un banc calcaire. Donc au-delà de la problématique de l'approvisionnement d'un matériau qui nécessiterait encore énormément de recherches presque ethnographiques finalement, nous avons aussi la problématique des bâtisseurs qui mériterait aussi d'être approfondie. Il semble que plusieurs cas de figure existent. Nous avons les maçons de métier, au même titre que les tailleurs de pierre. Nous avons mention de charpentiers également. Mais les sources, on va dire, manquent cruellement sur les chantiers qui ont lieu en campagne. Le plus souvent, quand on a de la chance, il s'agit d'archives privées qui mentionnent parfois que le futur propriétaire se charge de l'extraction, du charroi des pierres, et finalement, les autres corps des métiers n'interviennent que pour des éléments très spécifiques de taille ou de mise en œuvre. Alors là, je vous ai mis un extrait d'un livre de contes qui n'est pas du tout dans l'Écosse, puisqu'il est à Saint-Vincent d'Autejac, mais qui est un des livres de contes qui a été trouvé dans le cadre de l'inventaire de cette commune, prêté gracieusement par un propriétaire, donc de la famille Jean de Montcuquet, une succession de générations de maçons charpentiers, qui retrace sur de nombreuses années comment fonctionnaient les chantiers. Donc, d'une part, eux, c'était leur métier, mais ils étaient quand même, à certains moments de l'année, agriculteurs. Et ils expliquent un peu comment, en fonction des propriétaires, on échangeait le savoir-faire, la matière première, ce genre de choses. Donc ça fait partie notamment des archives qui ont largement été étudiées dans le cadre de la publication sur la terre, dont je pourrai vous parler plus tard. De nombreuses recherches ont finalement été menées sur le thème de l'architecture rurale d'Écosse, pardon. Et l'article paru dans le dernier bulletin de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin reprend d'ailleurs les principales sources bibliographiques sur ce sujet. Donc, tout en s'appuyant sur des analyses typologiques qui ont déjà été mises en avant, il m'a paru intéressant de faire un état des lieux à partir de quelques exemples que nous avons pu, nous, observer dans le cadre de l'inventaire. Donc l'Écosse qui nous occupe révèle de nombreux sites d'anthropisation précoce, et pour certains d'entre eux, l'analyse nous permet de faire émerger des vestiges d'époques successives. Ainsi, au-delà de véritables typologies dans la manière de construire, nous constatons des évolutions dans les savoir-faire, des transformations qui sont liées aux besoins de ces populations qui vivent essentiellement finalement des ressources de la terre, que ce soit la polyculture ou l'élevage. Alors sur le territoire de Causse, deux types de logements coexistent depuis la fin du Moyen-Âge. Avant ça, les vestiges sont généralement trop ténus pour que l'on puisse nous en tirer des conclusions. Nous avons un cas un petit peu unique, assez récent, donc je ne fais qu'en parler, mais à La Vorette, où nous avons pu identifier un mode constructif antérieur au XIVe siècle, qui était constitué de pans de bois. Malheureusement, nous avons juste retrouvé les structures maçonnées, ce que l'on appelle les têtes de mur, qui servaient de maintien à ces pans de bois, ce qui ne nous a pas permis ni de voir concrètement à quoi pouvaient ressembler ces bâtiments, ni même quel était le remplissage utilisé. Est-ce que c'était du torchis, est-ce que c'était du tuf, etc. Mais on a connaissance, pour cette commune-là, d'un habitat un peu différent. Donc, pour revenir à ces logements, donc, le logement simple, en rez-de-chaussée, qui est considéré comme la forme la plus modeste d'habitat, on l'associe souvent au petit métayer, au brassier qui louait ses bras à la journée en fonction des besoins. Donc là, je vous ai mis l'exemple à Baisse de Lacan. Donc il faut bien imaginer que le logement initial est réellement constitué par cette petite porte et ce petit jour. Et à côté de ça, donc, nous avons le logement à porche surélevé. Donc ici, le logement initial est localisé ici, qui est quant à lui plus généralement associé à la maison du petit propriétaire, cultivateur, avec une partie habitable à l'étage et un rez-de-chaussée qui est utilisé pour le stockage ou pour les animaux. Donc à partir de ces deux bases de construction, ce sont l'approvisionnement en matériaux, la configuration du terrain et les formes d'ouverture en fonction des époques, puis les transformations qui sont liées aux besoins d'espace, qui vont générer en quelque sorte des modèles. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, donc après la guerre de Cent Ans, un repeuplement des campagnes s'opère grâce à des habitants venus de contrées voisines qui répondent à l'appel de nombreux seigneurs locaux pour venir entretenir et cultiver leurs terres. C'est à ce moment-là qu'une multitude de groupements d'habitats s'implantent et nombre d'entre eux vont finalement perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle et quelques-uns jusqu'à nos jours. Donc voici deux exemples repérés à la Vorette qui témoignent de cette époque de construction. Donc vous avez à gauche cette porte constituée par deux pieds droits taillés en quart de rond et un linteau orné donc d'une accolade. De part et d'autre, il faut imaginer deux petits jours chanfreinés. Et en fait, ce petit module constitue un logement simple en rez-de-chaussée qui a été englobé plus tard dans une habitation beaucoup plus vaste. À la même époque, à l'Antarenque haute, toujours à la Vorette, vous avez cette forme d'ouverture, donc encadrement chanfreiné avec congé coupé, qui elle est déjà située à l'étage d'habitation. Voici un autre exemple à la Bastide de Peine, à Norios, où le logis initial est ici, où le porche surélevé est déjà constitué. Et voici donc un détail des ouvertures, portes et fenêtres, qui permet ici d'apporter un élément de datation. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, nous allons définir ce qu'est un logement simple, quels indices permettent encore de les identifier aujourd'hui. Voici en haut l'état initial de deux logements accolés à gouverne qui sont desservis chacun par une porte. Ils sont composés d'une pièce unique et équipés donc d'une pierre d'évier qui est toujours aménagée dans le mur opposé à l'entrée. En bas, donc, je vous ai replacé en fait l'emprise du bâtiment initial dans la nouvelle construction actuelle. Voici le revers donc, de ces deux logis avec la démarcation entre les deux, les pierres d'évier, et voici donc le détail de la fenêtre plus la niche qui accueille la pierre d'écoulement. Donc cette structuration avec des logements simples à coller a été observée dans de nombreux hameaux d'Écosse, notamment en plan. Et c'est en ça que la consultation des plans cadastraux anciens peut être une mine d'informations. Donc vous avez ici deux extraits du plan cadastral de 1809, des hameaux de Bory et de Spar à Casals, où l'on a pu identifier grâce aux matrices la succession de bâtiments linéaires, en fait, concentrés ensemble. À savoir qu'aujourd'hui, en l'état actuel, il ne subsiste plus rien, du moins de ce que l'on peut voir depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est très difficile de les identifier. Voici un autre exemple donc, dans le village de la Vorette, avec un extrait du plan cadastral et le report donc, de ces trois logements. Vous avez ici un logement initial donc, qui se rapporte à ce que nous avons vu tout à l'heure, et une construction des années 1500 avec pied droit en quart de rond, linteau chanfreiné, contre laquelle sont venus s'agglomérer d'autres logements plus tardifs. Deux logements, chacun desservi par une porte, une fenêtre, et qui, vraisemblablement, l'un d'entre eux a fait office aussi de boutique et d'atelier avec cet étal. Alors, en revanche, il existe des cas où les transformations postérieures tendent à masquer complètement le parti pris initial. Alors ici, c'est vraiment un peu, on va dire, le hasard ou la chance qui nous a fait nous intéresser à cet édifice qui paraît extérieurement très remanié. Alors voici cette vue de l'extérieur avec la matérialisation en rose du bâtiment initial. Voici côté porche. Donc ce que vous voyez ici, finalement, correspond à cette adjonction. Sous le porche, cette fenêtre qui a été entièrement reprise au début du XXe siècle avec des pieds droits de briques. Et donc, dans le renfoncement, cette porte d'origine avec ses montants chanfreinés qui sert d'appui à l'extension. Alors, nous avons eu énormément de chance parce que cette maison est en travaux, ce qui nous a permis de faire des essais de restitution. J'ai préféré rester sur les plans parce qu'en fait, les photos, finalement, manquent de clarté pour comprendre la répartition des différents éléments. Alors, vous avez les pointillés bleus au centre qui restituent de manière hypothétique l'emplacement d'une cloison légère constituée soit de bois ou de pans de bois qui séparait deux pièces de vie. Elle est hypothétique, mais en même temps, nous n'avons trouvé aucune trace d'arrachement de maçonnerie actuellement. Donc, on est quand même à peu près sûr de cette séparation. Nous pouvons imaginer donc clairement deux espaces de vie, puisque nous avons de manière complètement symétrique le même type d'aménagement de part et d'autre, à savoir deux éviers, deux fenêtres, deux cheminées. La porte donc, que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est placée ici, l'équivalent que nous verrons tout à l'heure en élévation, donc, qui est bouchée, et ici donc une porte percée tardivement pour accéder à l'extension au-devant du porche. Voici la cheminée qui a été conservée, donc avec son système de corbeau à double quart de rond. Et pour cette partie-là, nous avons le négatif uniquement qui a été conservé. Voici l'élévation intérieure avec les pierres d'évier, où nous retrouvons, même si les maçonneries finalement ont été bouchées, excepté pour ici où une fenêtre a été percée, on a gardé en fait les pierres d'évier, les supports, etc., qui permettent de restituer cette mise en œuvre. De part et d'autre, donc les deux fenêtres ont été transformées en portes pour correspondre avec les adjonctions successives. Et enfin, voilà, la localisation de la cloison entre les deux espaces. L'autre pan de mur, où nous avons toujours donc la porte d'entrée initiale, on note bien en fait le traitement identique avec celle qui a été bouchée et l'utilisation donc de poutres de bois qui sont taillées en arc segmentaire. La nouvelle porte donc percée avec l'emplacement de l'hypothétique cloison. Et dans cette fenêtre donc, qui extérieurement a été reprise en briques au début du XXe siècle, nous avons un coussiège qui a été conservé. Donc, pour mémoire, je vous ai mis donc une illustration issue de l'encyclopédie de Viollet-le-Duc, donc de ces petits bancs en pierre aménagés dans l'embrasure de la fenêtre qui permettent de profiter de la lumière. Voici un autre exemple à Casals, qui date, lui, de la fin du XVIIIe siècle, donc qui montre le fait que ce type d'habitat perdure et qui se distingue, par contre, de ce vu précédemment, du fait qu'il est construit de manière isolée. Néanmoins, les dispositions intérieures sont identiques. Donc là, pareil, un mélange de restitution, on va dire, plan et photo. Donc nous avons la traditionnelle cheminée de cette époque avec ses corbeaux en pierre, le manteau composé d'une large poutre de bois et un remplissage qui peut être aléatoire, briques, terre, etc. À l'intérieur, donc, l'évier a été conservé avec ce petit réservoir d'eau donc placé au-dessus de la pierre d'écoulement dont nous avons fait une restitution en plan. Et enfin, la petite fenêtre avec le placard aménagé dans l'épaisseur du mur. Alors, quand on parle après des logis à porche surélevée, on pense le plus souvent à la maison d'un propriétaire cultivateur, plus riche que ceux qui vivent dans les logements en rez-de-chaussée. Donc, c'est une notion qui n'est pas forcément erronée. Néanmoins, on se rend compte que jusqu'au XIXe siècle, même deuxième moitié du XIXe siècle, l'habitation n'est pas pour autant surdimensionnée. Et on reste sur des pièces de vie de taille moyenne, et voire on possède une ou deux pièces annexes. Ce qu'on peut noter aussi à travers cet exemple que je vais vous présenter, c'est que la structuration agglomérée de l'habitat n'est pas valable que pour les logements en rez-de-chaussée. On la retrouve également pour les porches surélevées. Et c'est le cas ici, donc, dans le hameau de l'Herbeau, à La Vaurette. Il faut imaginer qu'il y en avait un troisième qui a disparu. Donc voici la séparation entre les deux logements. Ce qui est intéressant, donc, c'est que celui qui est à droite a conservé donc, cette ancienne fenêtre réduite au XIXe siècle, mais qui était finalement une ancienne fenêtre à meneaux et traverses. Nous avons également, sous le porche d'escalier, donc, qui est un aménagement plus tardif, un linteau avec la date 1600 et quelques, qui a été difficilement identifiable, mais qui fonctionne très bien avec d'autres éléments du hameau. Donc on a réellement un habitat du XVIIe siècle avéré dans ce hameau, avec cette structuration linéaire du bâti. Dernier fait assez étonnant, donc vous avez ici le typique aménagement de la pièce de vie, pierre d'évier, placard. Donc, je ne vous ai pas mis la cheminée, elle est démontée, mais on a des pieds droits qui statistiquement correspondent à la fenêtre. Mais ce qui nous interroge là, c'est qu'on pourrait imaginer que cette pièce de vie soit à l'étage, éclairée par une large fenêtre à meneaux. Or, elle est située au rez-de-chaussée et elle correspond à la datation, enfin, les dates de construction que nous avons. Donc, cela soulève une autre interrogation quant à la façon de vivre de ces maisons. Nous avons vu donc de manière globale de quoi les logis sont constitués, mais il est également important d'observer comment ils se structurent les uns par rapport aux autres. Sur les secteurs de Causse, la vie en hameau semble privilégiée, qu'il s'agisse du groupement de deux ou trois maisons, de deux ou trois propriétés, ou d'un ensemble plus important qui s'approche parfois presque d'un modèle de village. Là encore, le regard que nous portons aujourd'hui depuis l'extérieur sur le hameau existant ne rend pas réellement compte de la façon de vivre des populations, au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle. Puisqu'après un pic démographique dans les années 1800, un déclin va s'amorcer, associé à d'autres facteurs qui vont impacter sur la société rurale, modifier le paysage des campagnes et de l'architecture qui la compose. Des propriétés plus importantes, mais en même temps une exode, enfin, tout un tas de facteurs qu'on pourrait détailler, mais voilà un portrait global. Alors là, je vous ai mis la carte de Cassini, donc de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le village de Saint-Antonin, les trois principaux hameaux, Sainte-Sabine, Servanac et Montpalache, principaux puisqu'ils sont à l'époque lieu d'une église paroissiale. Et voici les pastilles violettes qui correspondent aux, que je dise pas de bêtises, 35 hameaux que l'on a caractérisés lors de l'inventaire réalisé sur Saint-Antonin entre 2006 et 2008, mais qui montrent un écart puisque si l'on se réfère à la carte de Cassini et aux icônes utilisées, on était sur 57. Voici un extrait du plan cadastral donc, de 1811 pour Saint-Antonin, avec le hameau de Montpalache, donc, qui montre une structuration importante. On est proche du village. Hein. Pour certaines communes, le village n'atteint même pas ce nombre de maisons. Il est aussi intéressant puisqu'il fait partie des hameaux très anciens qui sont mentionnés dans l'acte de partage des vicomtes dès 1155. Il est intéressant également par sa forme plus ou moins concentrique, puisque l'on observe différents types de hameaux, avec un large patus communal autour duquel sont construits les différents bâtiments. Et là, moi, j'ai choisi de partir à la Vorette pour vous présenter le hameau de Ricomme. Alors, grâce à une consultation plus approfondie des sources, ici le plan cadastral donc napoléonien date de 1829, plus une analyse de terrain assez fouillée, nous avons pu mieux comprendre l'évolution de l'habitat depuis la fin du Moyen-Âge. Alors, pour cette période, essentiellement, nous avons observé des vestiges, mais ils sont assez ténus. Donc ça concerne essentiellement des pans de maçonnerie, des encadrements chanfreinés. Donc il n'était pas très à propos de les présenter ici. En revanche, le hameau est sans conteste très bien établi au milieu du XVIIe siècle, comme en témoigne donc ce très haut pigeonnier à lanterneau, qui conserve un linteau sculpté d'une fleur de vie et la date donc de 1667. Alors voici comment nous avons procédé pour y voir un peu plus clair. Nous avons pris le plan cadastral donc de 1829, associé aux matrices, et nous avons colorisé les différents propriétaires. À cette date, le hameau compte 9 maisons. Vous avez un ensemble ici, là, et quelques maisons ici. Chacune possède un sol, donc c'est, on va dire, une sorte de devant de porte, et la plupart, donc, un degré, ce qui correspond aux escaliers qui sont représentés ici. Chose qui est assez intéressante, parce qu'on va se rendre compte par la suite que ces escaliers ont disparu, et ça va nous permettre de comprendre comment on a réorganisé quasiment en interne l'habitat et la distribution. C'est ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que je vous avais montré avant mon palage, donc c'est ce qui est colorisé en vert, qui correspond à une pâture communale, sur laquelle est implanté ce noyau d'habitat, et autour duquel sont reportées finalement les dépendances et ce que nous pensons être des maisons un peu plus tardives. L'exemple que je vous ai montré précédemment à l'Herbeau, toujours commune de la Vorette, fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'au centre de la pâture communale, là ce sont des maisons qui s'étirent selon un axe, mais on a le même fonctionnement au centre de la pâture. Je vous ai mis deux extraits, donc à gauche les cinq logis regroupés en 1829, et voici l'extrait du plan cadastral de 2015 qui distingue sur la même emprise uniquement deux maisons. Alors, voici les vues principales de cet ensemble de cinq logis. Donc, pour la partie arrière, c'est un montage, c'est pour ça que ça paraît un petit peu étrange. Si on les regarde comme ça, sans information, finalement, il n'en ressort que peu de choses, excepté que l'on distingue ce qui semble être deux maisons d'habitation, constituées un peu sous la forme de maisons jumelles, accessibles par des escaliers distincts et séparés par ce mur de refend qui gagne jusqu'au porche. Voici maintenant les séparations qui correspondent à ce que l'on peut voir sur le plan cadastral donc napoléonien, sachant qu'il manque ici la division sur le pignon que l'on voyait auparavant, ce qui nous fait cinq logements. Mais avant même cet état de cinq logements, c'est l'analyse architecturale qui nous a permis de découvrir ceci, à savoir une porte et une fenêtre, qui sont aujourd'hui sous le porche surélevé, et qui correspondent en fait à un logement initial en rez-de-chaussée. Malheureusement, pour cette partie-là, il y a eu trop de modifications, donc on n'a pas pu confirmer l'hypothèse que l'on avait un noyau de plusieurs logements en rez-de-chaussée au départ. Il n'empêche que nous avons donc cet état-là, et ensuite, à l'étage, cette fenêtre, avec son arc, son linteau taillé en arc segmentaire, qui témoignait d'un état plutôt du XVIIIe siècle. Donc on voit comment on a constitué peu à peu cet habitat. Finalement, si nous n'avions pas pris la peine ou si nous n'avions pas pu consulter l'ancien plan cadastral et si nous n'avions pas essayé de trouver des traces d'habitat antérieur, bon, il faut savoir que ce n'est pas toujours évident parce qu'on se retrouve parfois confronté à la question du réemploi, c'est-à-dire est-ce que telle pierre est bien au bon emplacement, donc il faut pouvoir observer les maçonneries et savoir si ça fonctionne ou pas. Enfin, il n'empêche que nous serions probablement restés sur le constat actuel que l'on peut faire sur cette image, à savoir deux logis à coller et deux campagnes essentielles de construction, 1864 ici et 1878 ici. Plus, bon ça on arrive bien à l'identifier, une adjonction plutôt début 20e. En réalité donc... Le nombre de propriétaires dans ce hameau a diminué au cours du XIXe siècle. En 1829, on comptait 9 maisons. en 1896, il n'y a plus que 4 maisons qui sont mentionnées dans les matrices et qui, à elles seules, réunissent 7 familles et quand même 30 personnes. Il semble donc qu'à la fin du XIXe siècle, nombre de propriétés ne trouvent pas d'héritier, liés donc à différents facteurs que nous avons pu évoquer. Donc ce sont des propriétaires qui font le choix de rester en place et quelque part de développer un peu leur exploitation, qui rachètent, généralement pour les logis, ben, aux voisins, ce qui permet d'augmenter la taille de l'habitat, de gagner en confort, et qui conduit généralement aussi à disposer de dépendances agricoles beaucoup plus conséquentes. Donc on a un effet boule de neige et vraiment une transition qui s'opère dans l'habitat à ce moment-là. Le grand changement, donc, c'est la seconde moitié du XIXe siècle, puisque avec ces propriétés qui augmentent, on a aussi les mentalités qui évoluent, et le logis qui participe de plus en plus, finalement, à asseoir la prospérité du propriétaire. Il ne se cantonne plus simplement à abriter une pièce de vie, voire une ou deux chambres. Il veut exister en tant que tel, finalement. Donc la seconde moitié du XIXe siècle voit aussi la diffusion de préoccupations hygiénistes qui seront, elles, diffusées à l'échelle de la France. Alors elle préconise une réelle séparation de l'habitat et des bâtiments agricoles. Elle préconise des espaces qui soient suffisants, hiérarchisés. Et c'est ainsi que des modèles d'architecture, finalement, se généralisent. Alors dans les coteaux, je l'ai évoqué rapidement en début de présentation, pour des communes qui sont frontalières, hein, si on parle uniquement du pays Midi-Quercy, la majorité des constructions ont été détruites à cette époque au profit de ces nouveaux modèles que l'on va voir apparaître aussi dans les villes et les villages. Là, on parle de la campagne, mais si l'on regarde après dans la ville de Saint-Antonin, ce sont des modèles qui vont se répartir partout. Donc ces logis, eux, ils se caractérisent par ce que l'on appelle un ordonnancement de la façade, pardon, avec une travée centrale qui est composée de la porte d'entrée, à l'étage une porte-fenêtre qui est mise en valeur donc par le balcon avec un travail de ferronnerie. Généralement, donc, ce sont des logements qui sont accessibles de pain-pied. Derrière la porte d'entrée, nous avons un large couloir, une cage d'escalier et une répartition de 4 pièces par niveau. Donc ce sont après les décors donc de ferronnerie, mais aussi de terre cuite, tels ceux qui peuvent orner les jours de comble, qui participent à l'embellissement de la façade. Il faut savoir que ce type de décor, donc là c'est un extrait du catalogue Virbent, qui est un des on va dire fabricants toulousains les plus connus, mais vous avez aussi Viguier, il y en a tout un tas d'autres, qui fabriquaient ces décors que l'on pouvait commander sur catalogue. Donc il y a une diffusion très très large de ce type d'ornement. Et finalement, ce sont plutôt les matériaux locaux qui vont amener une petite spécificité dans cette architecture. Donc là, je vous ai mis deux exemples, à Grimal, donc à Quérac, et à La Pinche. Donc Quérac, on voit bien, secteur plus sur les coteaux, où c'est la brique qui est mise en exergue avec une alternance de briques de marne et de briques de terre cuite. On utilise là des jours de terre cuite vernissée. Les enduits participent aussi à la mise en valeur de la façade. À La Pinche, donc, on est sur des constructions en calcaire, mais on utilise quand même l'alternance de la pierre et de la brique pour les encadrements. Les jours en terre cuite. Donc là, il faut bien évidemment imaginer que la façade était enduite, puisque ces maisons étaient destinées à être enduites pour que justement les chaînes d'angle, les encadrements de fenêtres soient bien soulignés. Mais on conserve quand même, à ce niveau-là, l'air d'envol du pigeonnier, parce qu'il y a quand même une utilité dans certaines choses. Donc on adapte. Alors concrètement sur l'Écosse, ce que j'ai oublié de dire, donc, c'est que Ces constructions ex nihilo, comme celles qu'on vient de voir, ex nihilo, ça veut dire qu'elles ne partent pas de l'existant. Elles se rajoutent dans un hameau, ou comme on peut le voir plus fréquemment à Saint-Antonin, par le développement de certaines propriétés, elles vont être le long des axes de communication. Toutes ces constructions ne sont quand même pas majoritaires dans le secteur de Causse. Et finalement, on va plutôt apporter des modifications et on va essayer de composer avec l'existant. On va créer quelque part un peu cette image que l'on a de l'architecture traditionnelle, mais qui est issue d'une accumulation en fait d'époques et de questions de goût. Donc là, c'est un exemple d'un logis sur la commune de la Bastide de Peines qui conserve un peu, on va dire, son aspect traditionnel avec son porche surélevé. Mais celui-ci est accessible par un large escalier perpendiculaire à la façade. Il mène à une galerie. Donc là, on a une réelle mise en scène de l'entrée. C'est accentué donc par ces deux avant-corps qui font office de pigeonniers au niveau du comble. Donc on a un traitement très soigné de la façade qui est caractéristique de cette fin du XIXe siècle. Elle doit témoigner de la prospérité de l'occupant. Il faut qu'elle, au sein de la ferme, elle se signale. Mais quand on regarde de plus près, finalement, on se rend compte qu'il y a des petits écarts de proportion entre les deux avant-corps. L'escalier il n'est pas centré sur la galerie, etc. Donc on se dit, quelque part, elle n'a pas été construite là maintenant. Sinon, on aurait vraiment été dans la symétrie classique du XIXe siècle. Et effectivement, donc, on a pu le confirmer avec cet encadrement de porte qui conserve le fameux linteau chanfreiné, qui porte, lui, pour le coup, ça nous aide, la date de 1785. À l'arrière, donc, les fenêtres ont également conservé ces formes d'ouverture. Donc on sait déjà qu'il y a une certaine forme d'antériorité. Mais quand on peut faire la visite complète de l'édifice, on apprend souvent d'autres choses. Et c'est là donc, que nous avons visité le rez-de-chaussée. Ce rez-de-chaussée qui est en fait un logement initial des années 1500. Donc là encore, je ne vous ai pas mis la photo de la porte parce qu'elle est bouchée dans la maçonnerie, mais on retrouve cette forme donc de pied droit à quart de rond de linteau chanfreiné. Et en revanche, chose assez exceptionnelle, depuis le temps, tous les aménagements intérieurs ont été conservés. Pierres d'évier, placards, vestiges de l'emplacement de la cheminée, même si effectivement ça fait très longtemps que l'espace est dédié à du stockage. Donc, contre toute attente, cette belle maison très traditionnelle, comme ça, au premier abord, révèle tout un tas d'histoires. Là, je vous ai mis deux exemples, donc comme quoi les choses se transmettent, puisqu'on a un exemple à Sainte-Sabine, à Saint-Antonin, et à Rigoudou, à la Bastide de Peines, où finalement, la démarche a été la même. Alors, est-ce que c'est l'envie de marquer la façade qui a engendré le déplacement de l'escalier, ou l'envie de créer un espace de vie supplémentaire qui a modifié, là c'est difficile de savoir. Il n'empêche que dans les deux cas, cette partie en fait était à l'origine non bâtie, et il faut imaginer donc un escalier qui desservait la façade de manière parallèle. Et dans ces deux exemples, donc, on a fait le choix de bâtir, de construire cet escalier et d'adopter en fait encore une fois cette symétrie si classique, allant jusqu'à Saint-Antonin à l'utilisation de ces petits décors de terre cuite pour un peu améliorer l'ensemble. Alors voici un autre exemple à la Vourette. Alors ici, tous les codes de l'architecture classique de la fin du XIXe sont réunis. On a une symétrie portée par ce large escalier en pierre qui se prolonge par un balcon qui rappelle bien évidemment les portes-fenêtres que nous avons vues précédemment. Nous avons des arcades qui rythment le rez-de-chaussée, les jours de comble ornés de terre cuite, les encadrements qui sont mis en valeur, les chaînes d'angle, les encadrements de portes. En fait, tout y est pour vraiment qu'on puisse croire à cet aménagement de la fin du 19e. Mais finalement, on se rend compte qu'on a encore une fois des problèmes de symétrie au niveau des arcades, que l'on a des fenêtres qui ont un tracé segmentaire. En revanche, la porte a été refaite au 19e. On a mis un très beau garde-corps en ferronnerie. Et quand on tourne autour de la maison, donc, on voit bien en fait les rajouts de maçonnerie qui ont permis encore une fois de modifier l'accessibilité de ce logis, qui a donc pour le coup entièrement été repris, semble-t-il, au même moment où la grange qui existait en même temps, puisque sur le cadastre napoléonien, nous avions le logis, nous avons un pigeonnier, nous avons la grange. Alors le logis a été transformé dans son enveloppe. En revanche, ils ont fait le choix de détruire la grange du XVIIIe siècle et d'en construire une au XIXe siècle. Donc voilà, je m'arrêterai sur cette image pour conclure. J'ai voulu montrer au travers de ce diaporama comment, après presque 14 années d'inventaire sur ce territoire, nous découvrons encore des modes constructifs, des façons d'habiter qui nous interpellent, que dans la mesure du possible, finalement, il nous faut pouvoir croiser les sources archivistiques et l'analyse architecturale. Donc ça, c'est aussi grâce au bon vouloir des propriétaires, finalement, qui nous octroient du temps, qui nous permettent de faire des visites, même en nous disant mais non, mais il n'y a rien, c'est la cave. Mais on leur dit, mais si, si, il y a forcément quelque chose, ne vous inquiétez pas. On regarde juste des vieux murs. Donc, c'est aussi l'accumulation de toutes ces données après tant d'années qui nous fait prendre du recul, qui nous permet aussi d'avoir un regard critique, même par rapport à nos propres conclusions que l'on a pu avoir auparavant. Donc même si ce n'est pas toujours évident ni même nécessaire, il faut pas toujours tout mettre dans une case ou dans une typologie. En fait, on a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à dénouer, et il faut associer ça, voilà, à des recherches ethnographiques, à l'archéologie du bâti, à tout un tas d'autres compétences pour avancer sur ce sujet. Donc juste pour terminer, toutes les informations qui sont recueillies dans le cadre de l'inventaire, commune par commune, donnent lieu à la création de notices par édifice qui sont saisies dans des bases de données et lesquelles sont reversées donc, sur le portail patrimoine Midi-Pyrénées. Elles sont également accessibles via le site du pays Midi-Quercy. Et en dernier lieu, donc, pour l'actualité, pour Saint-Antonin, c'en est plus une, mais donc il y a eu la publication Saint-Antonin-Villermeau en 2010, et mes collègues ont réitéré le partenariat donc avec la région Occitanie et ont rédigé l'architecture de terre crue en Bas-Quercy qui est parue en octobre 2017. Et nous continuons aussi notre partenariat avec le département de Tarn-et-Garonne par la rédaction donc de ces petits feuillets en quête de patrimoine, dont la dernière mouture sur l'ancien lavoir de Caylus, et qui sont disponibles en fait dans les différents offices de tourisme du pays et dans tous les lieux un peu touristiques du coin. Voilà. Ben, je vous remercie.